étiez là pour l'école du dimanche ce matin, bon, vous voyez justement que Jésus est venu apporter un enseignement qui a confronté les gens. Jésus est venu apporter un enseignement qui a confronté les pharisiens particulièrement. Et je voulais qu'on fasse la suite ce matin de l'école du dimanche. Si vous étiez pas là à l'école du dimanche, c'est pas grave. On va voir un texte ce matin qui parle beaucoup de par lui-même. Et j'ai intitulé, je sais pas si, j'espère que ça vous a pas trop choqué, mais le titre de mon message, c'est la gastro spirituelle. Oh boy, qu'est-ce qu'on fait quand on a mal au cœur? Je me souviens, je vais pas rentrer trop dans les détails, là. Mais quand on a mal au cœur, quoi de plus inconfortable? Ma femme, présentement, est enceinte, puis là, oh, le cœur au bord des lèvres, souvent. Et puis, je la vois se sentir mal. Je me souviens les fois que j'ai eu la gastro aussi, juste avant, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? On me semble que rien peut nous soulager. Le corps, quand il est infecté de ce virus-là, là, tout ce qu'il cherche à faire, c'est on le fait sortir. Peu importe par où, on le fait sortir. Et puis, mais le corps est bien fait quand même, hein? Et c'est pas agréable, mais c'est plus agréable ça que j'imagine si le corps finissait par être vaincu par le virus. Qu'est-ce que vous suggérez à quelqu'un qui a mal au cœur? On pourrait lui dire, par exemple, t'as juste à pas y penser. Hein? T'as juste à pas y penser? Fais semblant de rien. Ça marchera pas si je fais ça. Si je fais semblant de rien, le mal reste là et je me sentirai pas mieux. On pourrait peut-être dire, ah, mais t'as juste à te mettre une bouillotte d'eau chaude sur la tête et puis ça va passer. Je doute aussi que ça va passer. Il y a des mauvais moyens comme ça où ce qu'on, peu importe ce que l'on fait, ça marche pas. Je me souviens d'avoir eu m'amener la gastro. Je savais pas si c'était la gastro ou je digérais pas bien un aliment puis je m'étais pris une tisane à la menthe. Mauvais souvenir. Et déjà, là, ça goûtait pas bon quand c'est descendu, ça goûtait pas plus bon quand c'est remonté. La tisane à la menthe, c'est pas. En tout cas, je sais pas si ça l'aide dans certaines occasions, mais ça n'a rien changé. Et quand même qu'on se mettrait un plaster sur la bouche, ça changera rien. Quand on a mal au cœur, le mal il est là, et puis ça fait mal, puis on est inconfortable. Et puis dans un sens spirituel, Dieu il nous dit aussi qu'on a mal au cœur, qu'on a constamment mal au cœur. Et des fois, à force que de peut-être ne plus y penser, on vit bien avec ce mal de cœur-là. Mais les Écritures nous enseignent qu'il y a un mal de cœur. Je vais juste vous citer quelques versets. On va lire tantôt dans un autre texte plus particulier. Mais à partir de la Genèse, très tôt après le péché, Genèse 6, 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Imaginez, tous les hommes, toutes leurs pensées uniquement chaque jour, vers quoi? Vers le mal. Est-ce qu'ils faisaient des efforts pour être comme ça? C'était naturel. Genèse 8, 21, l'Éternel dit, « Je ne maudirai plus la terre, c'est après le déluge, à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès quoi? » Dès sa jeunesse, très tôt, dès la jeunesse, le cœur de l'homme, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Très tôt. Les Écritures nous disent qu'on a un mal de cœur important et qu'on ne peut pas guérir ce mal de cœur-là avec des moyens, comme je disais tantôt, pour guérir la gastro. Jérémie 17, 10 et 11, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? » Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses lèvres. Jérémie 17. Le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Attention à la gastro spirituelle. Attention au mal de cœur que l'on a naturellement. Parce que Dieu voit nos cœurs. Parce que Dieu le voit si notre état est réglé. Et il y a un mal dans notre cœur, et le cœur, c'est juste une façon d'illustrer le centre de notre personne. Les choses qui nous sont importantes, on va dire les choses qui nous tiennent à cœur, c'est les choses que l'on a le plus ancrées profondément dans notre cœur, dans notre trait, dans notre personne. Et mais il y a un mal dans le milieu de notre personne, il y a un mal qui demeure, et que si on n'est pas vigilant, ben on reste avec ce mal de cœur-là. La tendance naturelle de l'homme, notre tendance naturelle, c'est de veiller sur nos apparences et puis de veiller sur les autres. On surveille nos apparences, puis on s'occupe des affaires des autres, et puis voir si eux, leurs cœurs sont corrects. Notre tendance naturelle pourrait ressembler à ça. Mais évidemment que si on agit comme ça, on passe à côté, puis on manque le mal que notre propre cœur souffre. Ce que Dieu nous demande, c'est de veiller sur notre cœur. Alors ce matin, avec la continuité de l'école du dimanche, on va voir, avec l'exemple de Jésus et les pharisiens, deux moyens pour avoir le dessus sur notre mal de cœur spirituel. Deux moyens pour qu'on puisse gérer justement ce mal-là. Et est-ce que je vais le gérer de par moi-même ou avec Dieu? Bien, c'est ce que les deux moyens vont nous dire à travers le texte de Marc 7. Avant, je vais faire un mot de prière et on va tourner dans Marc 7 pour lire les Écritures. Seigneur, on vient devant toi pour te louer encore, pour t'adorer. On voulait te louer à travers les chants ce matin. Tu es notre roi. Tu es celui qui a eu la victoire sur le péché. Tu es notre maître. Tu es celui que l'on peut suivre. Tu nous donnes tout ce que l'on a de besoin pour avoir en abondance la vie éternelle. Et on est vraiment reconnaissant, Seigneur. Et on te loue aussi pour cette parole-là qui est une parole de vérité, qui parle à nos cœurs, qui parle à nos têtes. On peut, Seigneur, faire confiance à ta parole, les yeux fermés, parce que l'on a la foi. Que tu dis la vérité, que tu vas nous transformer. Parle à nos cœurs justement ce matin pour que l'on puisse s'attacher à ta parole, s'attacher à toi avec une relation vraie et intime avec toi. C'est en notre ton fils qu'on te prie ces choses. Amen. Je vais juste remontrer, si vous étiez là à l'école du dimanche, vous le revoyez, il y avait la loi qu'on appelait la Torah, qui était dans l'Ancienne Alliance. Il y avait les écrits, les prophètes qui s'ajoutaient à ça, qui constituent tout l'Ancien Testament. Et la loi était le commandement de Dieu. Et évidemment, il y a plusieurs commandements qui sont donnés aussi dans les Écritures. Et dans l'Ancienne Alliance, il y avait la parole de Dieu qui était révélée et que les gens, par exemple, au temps de Jésus, pouvaient serrer dans leur cœur et comprendre ce que Dieu voulait pour leur vie. Pas longtemps après, ben il y a eu les chefs religieux qui se sont dit « Ah, ben on va trouver l'explication de la loi, on va faire l'application de la loi, puis on va en faire un recueil, et puis les gens vont pouvoir lire ça pour être capables de comprendre ça. » Alors, ils ont écrit le Talmud, et le Talmud est une série de règles, de traditions, de choses que les rabbins, les chefs religieux, voulaient enseigner au peuple et de dire « Maintenant, vous devez suivre ça. » Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Mais tranquillement, la loi s'est tassée et les traditions d'hommes sont demeurées. On est encore sujet au même danger encore aujourd'hui. On peut regarder autour de nous d'autres mouvements religieux où ce que ils ont créé des dogmes et que tranquillement, les Écritures ne sont plus là. Et ce que l'on enseigne, c'est des dogmes, c'est des traditions que l'Église a instaurées sur les gens et que c'est ça que l'on doit suivre. Et d'autres mouvements religieux aussi ont fait un petit cahier écrit par la tour de garde, par exemple. Vous savez qui je parle quand je dis ça? Bien, ils ont fait leur livre en disant « Voici l'explication. Vous ne pouvez pas comprendre les Écritures. » C'est pas moi que je dis ça, là. C'est eux qui disent ça. Et on va vous donner un recueil pour les comprendre. Et là, tout à coup, c'est ça qui devient la pratique. Mais c'est pas ça la vérité. Ce que Dieu nous dit, c'est que c'est pas nous qui va réformer les Écritures. C'est pas nous qui va transformer ce que Dieu dit. C'est Dieu qui va nous transformer à travers les Écritures. C'est ça que l'on croit. Et c'est pour ça que c'est important qu'en lisant les Écritures, on ne va pas laisser nos traditions par-dessus les Écritures, mais constamment, les Écritures sont par-dessus tout ce que l'on fait pour s'assurer que les Écritures vont réformer nos voies et nos vies. Et de là, le premier mot qui revient, cité par Martin Luther, où ce n'est pas l'Église qui va nous réformer. Constamment, l'Église sera réformée par la parole de Dieu. C'est ce que l'on croit fondamentalement. Et je vous invite à tourner dans Marc 7. On va lire les versets 1 à 23. Et à l'intérieur de ce texte-là, on va voir deux moyens pour veiller sur notre cœur, pour veiller sur nos vies, pour faire attention à ce que ce mal-là qui est à l'intérieur de nous, ben que finalement, on ait la victoire dessus. Marc 7, à partir du verset 1. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé les mains soigneusement. Verset 3. C'est Marc qui donne l'explication de la pratique des pharisiens. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils revinrent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Jésus leur répondit, « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Ensuite, ayant de nouveau parlé, appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Jésus vient d'exprimer aux pharisiens que le problème, c'est pas ce qui entre de la bouche, dans la bouche, puis s'en va dans le ventre, mais c'est ce qui vient du cœur puis sort de la bouche. C'est ça qui souille l'homme. C'est ça qui souille l'homme, et les pharisiens avaient perdu cette vérité-là avec le temps. La première chose que l'on voit ce matin, le premier moyen pour faire attention à ce mal de cœur-là que Jésus est en train de nous dire ici, il y a un mal, ce qui est dans le cœur de l'homme, on a cité une série de péchés qui est là, qui demeure, et que si on n'est pas vigilant, ça va demeurer là. Mais je vais faire l'introspection de ma vie et de voir que où j'en suis avec Dieu. Où j'en suis dans ma relation avec Dieu. Le premier moyen, c'est de premièrement faire le bilan sur ma vie dans ma relation avec Dieu, à savoir, est-ce que je suis éloigné de Dieu ou est-ce que je suis près de Dieu? Si on avait posé la question aux pharisiens, d'emblée, ils nous auraient dit, bien évidemment qu'on est près de Dieu. On est les plus près de Dieu. Après nous, il n'y a personne. Là. Avant nous, il n'y a personne entre nous et Dieu. Mais nous, où est-ce qu'on en est dans notre relation avec Dieu? Si Jésus vient faire l'état de nos vies, est-ce qu'il trouverait des coquilles vides? Je vous explique ce que je veux dire. Vous levez un matin, et là vous dites à votre conjoint ou votre conjointe, « Je vais te faire une bonne omelette. » Et là vous sortez vos œufs. À quoi vous attendez quand vous sortez un œuf? Et là j'ai peur de l'échapper. Là. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ouvrez le frigidaire, vous prenez un œuf. Qu'est-ce qu'on s'attend d'un œuf? Qu'il soit plein. On va prendre l'œuf et puis on va le casser. M'excuse, Yves, hein, si je fais des dégâts. Et là, je vais le remettre dans la boîte. Mais là, quand on va ouvrir l'œuf, naturellement, on se posera pas trop de questions. On va voir, ah ben, l'œuf, il a de l'air en santé. Tu sais, le blanc, il est translucide. C'est ça qu'on s'attend d'un œuf. C'est quoi ce qu'on s'attend du jaune? On s'attend qu'il soit jaune. On s'attend pas qu'il soit vert ou bien de d'autres couleurs. Mais quand on prend un œuf, on s'attend qu'il y ait un intérieur plein. Quelle est notre intention? Est-ce que c'est juste de dire, il faut que la coquille soit belle, sans imperfection, Oui, je vais en prendre, s'il te plaît. Sans imperfection. Merci. C'est bon. Et là, on va regarder notre œuf. Il faut qu'il y ait une forme parfaite. Il faut qu'il soit parfaitement blanc. Il ne faut pas qu'il soit qu'il y ait des petites imperfections brunes dessus. Mais la coquille, qu'est-ce qu'on fait avec la coquille? Elle ne sert à pas grand-chose, mis à part que de contenir l'intérieur. Et si, finalement, la coquille, on casse notre œuf, puis ça va faire des graines partout. Hey, il est durci. Et puis là, finalement, il n'y a rien dedans. À quoi ça sert d'avoir un œuf dans notre frigidaire qui n'a rien dedans? Quand même que la coquille est belle, qu'elle est toute blanche, qu'elle est ovale, qu'elle est sans imperfection, si elle est vide, elle est vide. C'est un œuf complètement inutile. Jésus, c'est exactement ce qu'il vient de dire. On va relire le verset. Jésus est en train de dire, votre vie ressemble à un œuf vide. Vous voulez faire une omelette agréable à Dieu, mais quand vous offrez vos œufs, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans qui lui plaît. Il faut faire dans notre propre vie de dire, à quoi est-ce qu'on ressemble dans notre intérieur? Qu'est-ce que l'on a dans notre intérieur avec Dieu? Est-ce que je suis prêt avec Dieu? Et j'ai besoin de faire cette introspection-là à dire, ben, ce que je fais pour Dieu présentement, est-ce que je le fais par un principe de base selon les Écritures qui va diriger ma vie ou est-ce que je le fais par habitude, par tradition? Parce que je l'ai toujours fait comme ça, puis on ne changera pas ça parce que c'est de même. Ben, il ne faut pas que ça soit comme ça. On va relire les versets 1 à 5 rapidement. Ce qui améliore ma relation avec Dieu ou ce qui nuit à ma relation avec Dieu, ce n'est pas les choses extérieures. Ce n'est pas ma religiosité. Ce n'est pas mes habitudes religieuses qui vont transformer. Ou si je ne fais pas mes habitudes religieuses, c'est ça qui va nuire à ma relation avec Dieu. Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Les pharisiens et les scribes sont arrivés puis sont venus auprès de Jésus. Et puis là, ils ont vu que pendant que Jésus mangeait avec ses disciples, bien Jésus, tes disciples, je suis en train de résumer les versets 1 à 5, on ne les relira pas. Jésus est en train de dire, mais Jésus, tes disciples, ils ne se lavent pas les mains, ils ne lavent pas les coupes, ils ne lavent pas les plats. Selon quoi? Selon la tradition des anciens. Regardez le verset 3. Alors les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens.